gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toi qui écoute Radio Canu à 22h un dimanche et vraiment tu n'avais rien d'autre à faire que d'écouter la causerie. Et donc 22h, nous sommes dans les studios de Radio Canu avec à la technique Clara.
Bonsoir.
Avec Jean-Yves.
Bonsoir. Et avec Fab qui a fait cette ouverture.
Bonsoir. Et donc si tu veux joindre la causerie, c'est lacausericanu@gmail.com. Et si tu veux réécouter lacausericanu@gmail.com. Et si tu veux réécouter les émissions, c'est à blogs.radiocanu.org/lacausserie. Voilà. Et sinon, bah, tu as aussi la possibilité de nous trouver sur je ne sais plus comment dire maintenant, parce que Jean-Yves me reprend à chaque fois quand je dis Facebook, mais voilà.
Et donc, du coup. Assume que tu fais de la publicité,
c'est pour pas un réseau socio-commercial, et c'est une forme de pub déguisée, évidemment. Et tu peux aussi nous retrouver chez un podcasteur de musique. Donc voilà, tu peux nous rechercher. Voilà.
Podcasteur de musique.
Ah bah, je cherche à ne pas dire 10 heures. Ouais, et bon.
Bah, tu peux dire à l'heure à laquelle commence l'émission.
À 10h. Putain, c'est nul.
Oh, t'es bon en devinette, toi.
Premier.
Oh, comment c'est trop naze. Non, mais sérieux, quoi.
Oui, je sais.
Ouais.
Je sais pas, t'as tout présenté. Bah,
normalement,
t'as
tout
donné, t'as dit tout. T'as... Voilà. Eh bien, on va commencer cette causerie, un peu comme à notre habitude, avec quelques différents sujets, en tout cas.
Ouais.
Toi, Fab, ce soir, tu vas un peu nous faire un tour du monde.
Non, je vais voir 4 situations particulières.
Ouais.
Voilà.
4, c'est pas non plus rester sur place, quoi. Je veux dire, donc tu voilà. Te déplaces un peu à travers le monde.
Ouais, c'est ça.
Et ça sera en 2 temps.
3 mouvements. Ah, tu voulais de la blague nulle ? Tu en auras ce soir.
Oui, non, je sais que tu seras toujours.
Oui, aussi vous taire, hein. Pour les blagues.
Oui, mais.
Pour les blagues.
Ah, ok, ah, d'accord.
Oui, d'accord. Bon, ok.
Bon, ben.
Je pense que Clara l'a tué le game. Allez, non.
Ouais, c'est ça. Merci. Eh bien, nous allons tout de suite, évidemment, commencer cette causerie. C'est mieux comme ça ? Merci. Donc, Fab, tu vas nous parler ce soir, en tout cas, dans ce premier sujet, de la Bolivie et du Chili.
Et du Chili, ouais. Donc, Amérique du Sud, hein, pour ceux qui ne voient pas où on se trouve. Ce serait un peu inquiétant, mais quand même. Donc, je vais commencer par la Bolivie. Alors, vous savez qu'il y a des mouvements sociaux, comme on dit gentiment. En fait, il y a des émeutes, il y a des vrais coups de gueule qui se passent là-bas. Et je vais commencer par la Bolivie, parce que c'est deux situations pas du tout identiques. Et souvent, dans les médias, on a tendance à dire que c'est la même chose, alors que c'est pas du tout le même truc qui se passe d'un côté et de l'autre. Donc, en Bolivie, je vais vous faire un petit rappel, hein, c'est que Evo Morales a été élu donc en 2006. Il était le premier président d'origine amérindienne ou indigène, voilà, ou natif américain, ça dépend quel natif sud-américain, comme voilà, c'est bon, comment vous voulez l'appeler. Bon, en gros, ce qui était intéressant, c'est que c'était un peu comme pour Obama, c'est la première fois finalement qu'on avait quelqu'un qui n'était pas blanc, qui arrivait à avoir la tête du pouvoir au pays, en Bolivie, pardon. Donc, il est issu du parti qui s'appelle le MAS, alors ça se traduirait par Mouvement vers le socialisme en français. Donc quand je dirais masse, c'est mouvement vers le socialisme. Voilà. Je suis très mauvais en espagnol autant qu'en anglais, donc je vous tente pas le coup de vous le dire. Non. Voilà.
Moi j'en connais une qui gère l'espagnol, mais.
Voilà, bon. Ah. Donc, très clairement, dès qu'il a été élu, il y a eu une pression américaine assez forte qui s'est portée contre son élection. Évidemment, on sait que les États-Unis ont une espèce de doctrine qui disent que tout ce qui est en Amérique du Sud, en gros, leur appartient. Hein. Un petit peu comme la France, avec tout ce qui est en Afrique, lui appartient. Voilà, bah, là-bas, c'est les États-Unis. Et en fait, la Bolivie, elle a bénéficié finalement d'un climat économique assez favorable et qui était plutôt positif pour le parti d'Evo Morales. Hein. C'est que on a découvert en fait un gisement de gaz naturel en l'an 2000. Et qui est un des plus grands du monde, donc en fait ça donne des bonnes rentrées d'argent. Et en fait il y a eu aussi la découverte plus tard, quelques temps après, d'une des plus grandes mines de lithium au monde. Et je vous rappelle que le lithium, on en a besoin dans toutes les batteries. Donc c'est quelque chose qui est vendu extrêmement cher. Donc en fait le MAS, il a entrepris très très tôt hein, de nationaliser en fait les hydrocarbures et les sous-sols, ce qui permettait en fait de ramener, d'enlever du privé et de ramener en fait au public ce qui était rapporté par ces deux mannes. Donc voilà, donc ça lui a permis en fait d'avoir une meilleure répartition des richesses et la mise en place d'un système scolaire et de soins sur tout le territoire bolivien. Parce qu'en fait, on part quand même d'une situation en Bolivie en 2006 qui est extrêmement catastrophique dans un pays qui pourtant n'est pas pauvre. C'est ça qui est très paradoxal. C'est un pays qui n'est pas riche, hein, on va pas non plus, voilà, mais c'est pas non plus un pays où la misère devrait exister, parce qu'il y a de quoi répartir les richesses, ne serait-ce que par les richesses minières qui ont été découvertes sur le pays. Donc d'un point de vue économique, on voit qu'il y a c'est un peu une réussite, parce que entre 2006 et 2019, le PIB, je parle bien d'un point de vue économique, passe de 9 à 40 milliards. Donc c'est quand même un gros bond. Et le salaire réel, il a été triplé. Donc c'est plutôt intéressant, en fait, c'est que le niveau de vie des Boliviens, en général, a plutôt augmenté et monté. Et l'inflation, elle est nulle, ou presque, et la pauvreté est passée de 38 à 15%. Donc on voit qu'en fait, il y a plutôt une bonne répartition des richesses, et plutôt un pays qui a un peu sorti la tête de l'eau, et c'est plutôt positif. Alors, dès le départ, hein, les riches, qui sont comme par hasard tous descendants de colons blancs, pour la plupart, s'opposent hein, en fait aux nationalisations, parce qu'en fait c'est eux à qui on a repris les choses, et ils vont aller jusqu'à menacer en fait d'une sécession, et d'une indépendance des zones gazières et minières. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le départ, ils alimentent une espèce de truc où ils veulent pas participer à l'effort national, comme on dirait. Dans le même temps, en fait, l'arrivée d'Evo Morales, ça a été une grande respiration, notamment pour les Indiens Quechua, qui ont pu être reconnus et qui ont vu leur langue reconnue, et surtout qui ont pu ne plus être massacrés. Parce qu'on va dire ça très clairement, l'arrivée d'Evo Morales qui va mettre fin en fait au massacre qui avait lieu. Parce que quand je dis massacre, c'est pas une vue de l'esprit. Hein. Il y avait des milliers de morts par an, donc c'est pas voilà. Par contre, il s'est passé un truc, c'est qu'en 2016, il y a eu un référendum, parce que Evo Morales voulait faire un quatrième mandat. Donc il y a eu un référendum qui a été lancé et demandé, et il l'a perdu. Donc en fait, la population, y compris donc ses soutiens, ont dit, bah non, en fait, non, faut pas que tu fasses quatre mandats, la constitution elle prévoit trois, donc tu t'arrêtes à trois, c'est très bien, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, Evo Morales, il a pris un petit peu le goût du pouvoir, comme plein de gens, hein, et malheureusement, il s'est un peu accroché, et son parti, en fait, le MAS, il a tout fait pour faire invalider ce référendum, et il y est arrivé d'un point de vue judiciaire, mais en transformant une cour, et en faisant en sorte que les juges soient plutôt d'accord avec eux. Donc c'était un peu compliqué, et surtout la population elle s'en est un peu rendu compte, c'est surtout ça qui, voilà. Et donc du coup, Evo Morales, il a commencé à perdre beaucoup de soutien à ce moment-là, y compris de gens qui l'appréciaient jusqu'à maintenant et qui étaient plutôt favorables à sa politique, à ce qu'il avait fait, mais qui disaient, mais non, mais attends, t'es comme les autres finalement, tu veux rester au pouvoir, tout ça. Cette partie de la population, elle n'a pas vraiment voté pour lui, ou pas totalement, pas aussi fortement que d'habitude. Et il y a eu des mouvements en fait de grève ou de protestation contre en fait ce maintien au pouvoir un petit peu forcé. Et c'est là que l'image d'Evo Morales a été encore plus ternie, parce qu'il les a fait réprimer très violemment. Il l'avait déjà fait dans le passé pour deux trois points où il estimait qu'il fallait pas, par exemple, bloquer les mines de lithium parce que c'était pour la nation, et voilà, donc il y avait c'est déjà pas terrible. Mais là en fait, du coup, ben les gens se sont dit, mais pourquoi en fait, voilà, si ce n'est de vouloir garder le pouvoir. Et le problème, c'est qu'en surfant là-dessus, en novembre 2019, en fait, l'opposition de Morales a appelé à voter massivement contre lui. Et en fait, les premiers résultats qui ont été annoncés de l'élection présidentielle, c'est qu'il sortait vainqueur au premier tour. Alors là, le souci, c'est que Luis Almagro, pardon, qui est le secrétaire général de l'Organisation des États américains. Qui était censé contrôler les voilà, alors lui il est pas du tout bolivien, pardon, il est, j'ai perdu, équatorien, voilà. Et en fait en réalité il dit il y a eu des fraudes et ça s'est vu, et lui il rend un rapport en disant il y a eu des fraudes, et ça va mettre le feu aux poudres, mais ça va mettre le feu aux poudres en triangle, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté ceux qui sont contre Evo Morales qui en profitent, d'un autre côté ceux qui voudraient simplement qu'on respecte la démocratie, et de l'autre côté ceux qui sont pro Morales qui voilà. Donc c'est un peu compliqué, la situation est pas très claire, pas très simple. Face à ça, en fait, Evo Morales va dire on refait des élections, parce que du coup voilà, sauf que l'armée va décider, elle, de lui demander de quitter le pouvoir, et là en fait on tombe clairement dans ce qui ressemble un petit peu beaucoup à un coup d'État. Et donc du coup il est chassé du pouvoir. Alors encore une fois, oui, il a fait une erreur à mon avis de ne pas respecter ce référendum de 2016. Par contre, quand l'armée commence à s'en mêler, voilà, on peut se dire que c'est pas terrible hein, quand même. Donc la police et l'armée vont lui demander de quitter le pouvoir et de quitter l'exécutif. Ils vont demander la dissolution du MAS, mais ils ne vont pas l'obtenir, donc du parti d'Evo Morales, heureusement. Par contre, ils vont mettre la pression sur tous les gens qui sont en dessous d'Evo Morales. Vous savez, quand un président s'en va, normalement, il y a un vice-président qui peut venir, lui il va démissionner. Puis après, ça va être la personne qui est à la tête du Sénat, elle va démissionner. Vous voyez? Et jusqu'à ce qu'on arrive en fait à quelqu'un qui, comme par hasard, fait partie des opposants d'Evo Morales et qui va pouvoir prendre la tête du pays et la présidente par intérim. Et c'est la fameuse Jeanine Agnès qui va prendre cette présidence. Alors, c'est pas une inconnue, hein, parce que c'est en fait juste la leader du mouvement évangéliste en Bolivie. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a un poids énorme dans la société. Elle est rentrée avec les évangiles dans les mains, d'ailleurs, dans le Parlement, en disant ça y est, on a libéré la Bolivie. Donc, on voit quand même que c'est pas quelqu'un de très sympa, hein, quand même. Et si on peut regretter effectivement la volonté de Morales de s'accrocher au pouvoir, et je vais pas être là pour défendre le positionnement de Morales, parce que franchement, je pense que c'est une erreur politique grave. N'empêche que je vais pas me réjouir non plus ni de son départ, ni du fait qu'ils sont remplacés par une espèce de cinglé, dont la première chose qu'elle a faite, c'est de faire réprimer les manifestations qui ont eu lieu dans les zones, notamment Quechua, et notamment les zones où se trouvent des Indiens. Elle les a fait réprimer. Il y a eu des morts, alors officiellement 8. Certains parlent de 300 morts, donc on est voilà, parce qu'ils disent oui, enfin comme d'habitude, on compte pas tous. Hein. Et donc c'est vraiment un massacre qui reprend. Et en fait, comme ils disent, ça repart comme avant Morales, quoi, comme avant 2006. Et voilà, moi je voulais juste poser ça parce qu'on a un peu du mal, nous vu d'ici des fois, à se dire voilà. Et toutes ces infos, je les ai eues grâce aux compagnons. Et compagnonnes, comme on dit, anarchistes qui sont sur place, qui tiennent un blog, je vous le conseille, et vous essayez un petit peu justement de sortir du binarisme pro ou anti. Moi, je suis soit tu es pro Morales et soit tu es anti Morales. Ou en fait, ils disent non. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir sortir toute cette merde et sortir tout ça en fait et s'en aller en fait de tous les jeux enjeux de pouvoir qu'il y a autour de ça. Parce que quand même, la mine de lithium, ça a bien pourri les relations au sein de la Bolivie aujourd'hui. Pareil pour le gaz et tout ça. Donc ils disent non, en fait il faut sortir un petit peu de cette logique là et rentrer dans quelque chose de plus sain, parce que là ça va créer des tensions et des morts. Voilà, je voulais juste poser ça. Honnêtement, je leur souhaite vraiment bon courage. Encore une fois, ça rentre dans le calendrier des évangélistes, hein, après Bolsonaro, voilà, que la Bolivie tombe dans les mains des évangélistes. Je vous rappelle que les évangélistes, c'est aussi Trump, donc c'est quand même, on voit qu'il y a chez eux une volonté d'appuyer quand même des gens pas super super sympas. Donc vraiment un grand courage au peuple bolivien, parce que c'est loin d'être terminé et ça risque d'être, malheureusement, et je ne le souhaite pas, très violent. Voilà.
J'y repense à vite fait, mais ça me fait vraiment penser au positionnement toujours. On a l'impression qu'on n'a pas le choix en fait, mais comme avec Maduro, on a pu rencontrer un compagnon anarchiste vénézuélien. Et en fait, c'est-à-dire qu'on trouve dans ce binarisme et qu'on retrouve ici aussi dans certains réseaux en France, c'est-à-dire que soit t'es pro Morales, soit t'es anti, et si t'es anti, c'est parce que t'es un facho ou t'es un capitaliste ou t'es un suppôt des USA. Enfin, c'est juste, en fait, dites-vous juste que et en plus, je trouve l'exemple de Morales est totalement parlant, c'est-à-dire que le pouvoir corrompt, et que même si vous avez un très bon personnage au début, il s'accroche au pouvoir parce qu'il kiffe le pouvoir, parce que ça vous fait sortir d'une forme de réalité, et qu'elle est toute là la problématique, c'est qu'en fait, plutôt que de vouloir choisir entre l'un ou l'autre, demandez-vous si on pourrait pas se passer de l'un et de l'autre.
Et faire autrement
en fait, quoi.
Justement, en parlant de faire autrement, ça fait une belle transition avec le Chili.
Et on s'était même pas encardé.
Bah non. Parce qu'en fait, au Chili, on a tendance à vous dire qu'aujourd'hui, c'est des manifestations qui sont uniquement liées au fait que les gens, ils veulent des sous. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, en fait, il y a eu un enrichissement de plus en plus fort d'une partie de la classe populaire, non, du tout, riche du Chili. Et en fait, la pauvreté a augmenté. Et les riches sont de plus en plus riches. Mais ça, c'est un petit peu comme partout. Sauf que là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que ça se fait grâce à une constitution bien pourrie qui a été écrite sous Pinochet. Donc, ça a un petit peu beaucoup énervé les gens. C'est qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, là, ça va, on a assez, ça a assez duré. Donc, ça a commencé d'abord par des grèves, au départ sporadiques, hein, un petit peu à droite à gauche. Puis finalement, ben, ça a fait un peu un effet boule de neige, comme diraient certains. Et puis, du coup, ben, ça a tourné à la grève générale. Mais vraiment, la vraie grève générale, hein, pas celle du 5 décembre, là. Une grève générale qui dure, et ce que je souhaite que ça arrive en France, mais j'ai du mal à y croire, c'est un moment où en fait les gens se disent, bon allez maintenant, tant qu'on n'obtient pas, on bouge pas. Bah, sauf que le problème, c'est que la répression qui a été en face, et face aux manifestations, elle a été assez hallucinante, parce qu'elle était digne de la dictature de Pinochet, mais très clairement. Il y a eu 23 morts, 220 personnes éborgnées. Alors attention, elles ont été éborgnées pour la plupart en étant torturées, c'est-à-dire qu'on leur a arraché un œil pour les torturer. 250 blessés, des centaines de femmes violées par des militaires et des policiers. 7000 arrestations officielles, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre beaucoup plus grand, et plusieurs dizaines, voire centaines de disparus, parce qu'on est encore en train de compter. Donc on voit qu'on est vraiment dans la même saloperie que ce que pouvait faire Pinochet, sauf qu'en théorie, on a quand même un président de centre-droit. Théoriquement, hein. Donc on a même vu apparaître d'ailleurs des sortes d'escadrons de la mort, je mets des guillemets parce que c'était pas au Chili, les escadrons de la mort, mais qui ont éliminé des figures de la contestation. Par exemple, Daniela Carasso, hein, qui était surnommée la Mima, ça veut dire la mime, qui manifestait tous les jours affublée d'une tenue de clown pour se moquer des policiers et tout ça. Enfin, c'était une provocation. Et donc, en fait, elle a été retrouvée pendue à un arbre quelques heures après son arrestation. Et en fait, au départ, ils ont voulu faire croire à un suicide. Ils ont dit, on l'a relâchée, elle s'est suicidée. Sauf qu'il y a eu une contre-expertise, que les gens ont pu voir le corps et elle a donc été torturée et violée avant d'être pendue. Donc non, c'était clairement une exécution. Vous avez aussi Albertina Martinez Burgos, qui est photographe militante, hein, qui était, pardon, photographe militante et journaliste, qui avait documenté en fait toutes les violences. Vous savez, c'est d'elle dont on a les photos, les fameuses photos où on voit des militaires qui tirent les gens et qui les tabassent en même temps. C'est elle qui avait fait des petits films où on les voyait tirer à bout portant sur les gens. Donc elle avait vraiment fait énormément de travail de documentation. Et ben elle a été retrouvée assassinée chez elle. Alors officiellement, ce sont des voleurs qui sont rentrés, qui ont assassiné. Mais alors, les voleurs a priori voulaient que les disques durs et les ordinateurs. Ben, le reste ne les intéressait pas. Donc on voit que c'est un meurtre politique, hein, très clairement. On a aussi Carolina Nunez Mengelo, qui a été enlevée en pleine manif, elle. Alors les gens l'ont vu, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrivés, 4 personnes qui l'ont pris, qui sont partis avec. Et elle est l'autrice, hein, d'un article qui a tourné partout dans le monde, et l'article s'appelle « Comme sous Pinochet, comment les carabiniers font disparaître les manifestants ». Ben comme ça, parce qu'elle a disparu, on ne l'a jamais retrouvée. Voilà. Donc c'était juste pour dire que la situation du Chili, en fait, elle n'est pas du tout structurée de la même façon que ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est bien un peuple qui a, lui, envie qu'on change sa constitution et surtout qu'on change le rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, on en distribue plus aux pauvres, parce que voilà, c'est tout simplement, c'est ce qu'ils disent, changeons le rapport à l'argent. Moi, je ne comprenais pas la phrase, en fait, et elle est juste parce que dans la constitution, il est écrit que l'argent est sacré et qu'elle ne peut aller que dans les mains des gens qui méritent de l'avoir. Oui, oui, c'est écrit noir sur blanc dans leur constitution. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils disent changeons le rapport à l'argent, c'est une provocation par rapport à la Constitution. Voilà. Et donc, on voit bien que Sébastien Piñera, qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement chilien, dit qu'il veut aller vers plus de transparence, vers une nouvelle Constitution, blablabla, sauf qu'encore une fois, il dit on fera ça en mars, ou en avril, ou en mai, ou en juin. Donc on voit que c'est un peu du foutage de gueule, quoi, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré tout ce que j'ai énoncé, les manifestants, ils ne lâchent rien. Ils sont toujours là, et ils ont une détermination qui est assez impressionnante à observer, enfin vu d'ici. Et franchement, moi, j'ai une grande admiration pour les gens qui se battent, parce qu'ils savent qu'ils risquent vraiment leur vie. C'est pas juste une vue de l'esprit. Voilà, c'était un petit point sur la situation au Chili. Donc vous pouvez, pour la Bolivie comme pour le Chili, les soutenir. Vous faites chercher sur internet, il y a beaucoup de groupes qui sont sur place et qui demandent des soutiens. Et c'est pas forcément des soutiens d'argent qu'ils demandent, parfois c'est juste de passer de l'info. Ouais. Voilà.
Eh ben,
Je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose d'autre.
Non, je ne vais pas compléter quoi que ce soit. Voilà, c'est situation de merde. Et effectivement, je trouve que c'est intéressant de... Chaque situation est différente et spécifique, même si le résultat c'est pareil, c'est-à-dire c'est peut être des manifs, des émeutes, etc. Je pense qu'on a tout à y gagner, à affiner les choses et à se renseigner et à pas juste d'être dans des postures simplistes.
Par exemple, sur le Chili, si vous lisez Valeurs Actuelles, ce que vous ne faites pas parce que vous écoutez La Causerie, mais vous, parce que c'est un journal d'extrême droite quand même, vous allez découvrir par exemple que ces manifestants sont contre l'économie chilienne. Voyez. Alors que c'est pas du tout leur propos. Oui. Eux, ce qu'ils disent justement, c'est que l'économie chilienne, justement, elle est contre son peuple.
Oui, oui, mais comme si tu écoutes certains médias d'extrême gauche ou coco ou très très rouge, je vais pas forcément citer de nom, sur la situation de Morales ou autre, c'est les États-Unis qui dirigent tout, etc. Ouais, etc.
Non, c'est plus complexe que ça.
Voilà, voilà justement, complexifions.
Mmh. Et ben, la musique.
Allez.
jusqu'au bout du morceau. La causerie canu au centre de deux. La causerie canu au centre de deux. Et c'était donc l'Ovatarax. Je l'ai bien dit, ça va, c'est bien, avec prostation. Je ne vais pas y arriver ce soir. Et on continue cette émission avec un sujet qui concerne les...
Non, non même le titre.
Prostration.
Prostration. Je savais que j'avais du mal ce soir.
Non, mais si
prostration. Mais oui, je l'ai mis. Non, mais je l'ai dit, au plus, le R, je l'ai mis et tout. Prostration, donc, de l'Ovatarax. C'est bon cette fois-ci ? Ils m'excuseront, et j'adore ce groupe en plus.
Nous validons.
C'est terrible. Et donc, on continue avec un sujet qui concerne les enfants, avec Jean-Yves.
Tout à fait. Eh bien, vous avez peut-être vu passer l'information. Oh, j'ai perdu mon casque et je m'entends plus.
Cette émission devient n'importe quoi, je tiens à vous le dire. C'est...
Non, mais j'arrive, hein. Je suis voilà. Là.
Il est là. Donc, voilà.
Pardon. C'est... Enfin, bon, bref. Donc, oui, ce soir, je vais vous parler des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ouais, 30 ans, en fait, seulement, que collectivement, mondialement, en fait, un texte reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des êtres humains à part entière. Porteurs de droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques, des droits fondamentaux, obligatoires et non négociables. Incroyable, hein, quand même.
30
hein.
ans.
Oui, 30 ah ans. Ouais. C'était hier, hein, à l'échelle de l'humanité, en fait. C'est ce qui est intéressant, toujours.
Ça veut dire, quand j'étais petit à l'école, je n'existais pas.
Ah si, tu existais, mais...
Non, mais
je
n'avais pas de droits.
Oui, tu étais un objet de droit. Ouais. Je crois que c'était comme ça qu'étaient définis les enfants. C'est cool, hein. Mmh. Non, ça aurait pu être pire, hein. Ouais. T'aurais pu être... Ah non, c'était vraiment pas mal. Convention internationale, un texte quand même au passage le plus signé au monde, et qui lui a une valeur juridique, contrairement à la déclaration des droits de l'enfant, qui a été elle adoptée, qui elle a été adoptée le 20 novembre 59, et qui elle est non juridique en fait. La déclaration des droits de l'enfant n'est pas juridique, et en fait ce n'était à l'époque qu'une incitation à considérer l'enfant, les enfants, comme je vous le disais, des personnes à part entière. C'était juste là, on disait, vous pouvez peut-être y penser que les petits trucs là, bah, ça peut être des humains, quoi, voyez. Bah,
il faut se rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas contraignante non plus.
C'est ça.
C'est-à-dire que ce qui est contraignant, c'est la Convention des droits de l'homme qui, elle, définit des droits inaliénables.
C'est ça. Et oui, alors en fait, tous les pays. Alors c'est le plus ratifié, le plus signé. Par contre, il y a des États qui ne l'ont pas fait ou qui l'ont fait tardivement. Pour différentes raisons, hein, dont la Somalie. Son gouvernement a entamé le processus de ratification en octobre 2015.
À l'issue des guerres en Somalie.
Voilà, merci de faire le complément, parce qu'effectivement, la situation était...
C'est un peu compliqué.
On peut dire compliqué, oui, c'est le minimum qu'on puisse dire.
En plus, c'est un des pays où il y avait énormément d'enfants soldats aussi, donc il y a une raison pour laquelle le gouvernement revient dessus maintenant, quoi.
C'est ça. Et l'autre pays, c'est... Les États-Unis, cette grande démocratie. Les États-Unis ont signé le texte, mais ne l'ont pas ratifié, parce que quand même. Parce qu'en fait, déjà en fait, si la peine de mort concernant les enfants a été abolie, c'était pas le cas à l'époque de la signature, parce que ça a été aboli en 2005 de mémoire, si je ne me trompe pas. C'est toujours pas le cas, par contre, pour l'enfermement à perpétuité des enfants dans certains États. Donc forcément, bon, ils peuvent pas signer, quoi, parce que bon, ils ont envie de mettre des enfants en prison, donc voilà. Donc là aussi, je trouve que c'est intéressant de se dire oui.
Le pourquoi en fait, pourquoi ils signaient pas?
Ben ouais, enfin c'est oui.
Bon, après, il y a des pays qui l'ont signé, mais qui quand même tuent des enfants, donc.
Oui, non, mais c'est juste ayons un peu des fois d'esprit critique, sans tomber dans un anti-américanisme non plus, hein, que je trouve absolument primaire, mais quand même. Non, mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier de...
Mais c'est au moins, pour une fois, ils sont francs du collier. C'est-à-dire qu'ils ne s'y pas en disant, parce que nous, on veut pouvoir les enfermer.
C'est ça. Ouais, on ne veut pas d'emmerde. Après, vous allez nous faire des procès, genre on met des gosses en prison, ça va, quoi. Et alors, par contre, je reviens quand même sur cette convention internationale. Donc, à ce texte de base, en fait, il y a des protocoles facultatifs qui, eux, ont été adoptés le 25 mai 2000 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, il y en a un, c'est le protocole facultatif à la Convention concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, qui, lui, est rentré en vigueur en février 2002. Je précise qu'il est moins signé et moins ratifié que le texte de base.
Bah, évidemment.
Bah ouais.
Ça touche à l'armée. Donc,
c'est ça. Voilà. Donc à la patrie. Voilà. On ne sait jamais si on. Comment ?
Ouais, non, mais en plus, par exemple, il y a un paradoxe, c'est que si tu mets des enfants de 14 ans ou de 16 ans dans un service national universel, est-ce que tu rentres là-dedans ou pas ? Est-ce que tu vois ?
Ah non, le service national universel, il est pas du tout.
Je fais peut-être un peu des extrapolations.
C'est vrai,
mais
peut-être.
Pas tant que ça.
L'autre protocole facultatif à la convention, en fait, concerne la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui lui aussi a été signé en 2002 aussi, donc, et bah, lui aussi moins signé et moins ratifié que le texte de base. C'est quand même marrant de se dire que plus tu précises en fait les points de lutte en tout cas et de refus, bah, moins il y a de gens qui signent. Comme quoi ça doit quand même arranger certains qu'on puisse emmener les enfants à la guerre et aussi les prostituer et les violer, donc.
Ah, mais ne nous l'aurons pas, oui.
Oui, c'est ça.
Il y a
ça.
Des gens qui trouvent ça légitime.
C'est tout à fait ça.
C'est des États, d'ailleurs, qui trouvent ça légitime.
Oui. Et il y a un troisième protocole facultatif qui, lui, s'est ajouté en 2011. Et en fait, c'est toute une... C'est toute une procédure, en fait. C'est l'établissement d'une procédure qui permet aux enfants ou à leurs représentants de pouvoir porter plainte auprès du comité des droits de l'enfant, mais évidemment seulement si le pays dans lequel ils vivent est signataire de tout ça.
Ça explique pourquoi certains ne signent pas.
Oui,
voilà.
Mais en même temps, voilà, c'est, ça donne des outils. Hein. C'est pas, on n'est pas là non plus pour se dire c'est tout à fait parfait.
Je fais une parenthèse. Il y a eu dans le cadre du climat, il y avait une action qui a été menée par des enfants, dont Greta Thunberg, qui ont attaqué des États en disant vous nous mettez en danger, et ils se sont appuyés sur la Convention des droits de l'enfant. Il y a des gens qui ont dit ah mais elle attaque pas les États-Unis et la Chine. Bah à votre avis pourquoi ?
Bah ouais.
Parce qu'ils n'ont pas signé, tout simplement.
Donc voilà, il y a pas besoin de se poser la question. Donc vite fait. Je reviens quand même sur la convention. Donc, comme je vous le disais au début, en fait, donc il y a les droits, cinq types de droits: droits civils, économiques, politiques, sociaux, culturels, et tout ça se décline en 54 articles. Je vais vous en donner juste quelques exemples. Hein. Je vais pas vous faire toute la liste en fait. C'est un peu...
Article 1.
Oui, c'est ça. Non, mais je vous laisse. Enfin, l'idée, c'est aussi, voilà, que chacun et chacune, bah, fouille ou pas, s'il ou elle a envie. Quelques exemples. C'est le droit d'être soigné, protégé de maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit d'aller à l'école. Le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation, le droit de ne pas faire la guerre ni la subir, le droit d'avoir un refuge, d'être secouru, d'avoir des conditions de vie décentes, le droit de jouer, d'avoir des loisirs.
Oui.
Ouais.
Et c'est un droit fondamental, je crois, pour les enfants, vraiment.
Mais oui, en fait, oui, j'espère bien.
Parce que si tu subis pas la guerre mais que tu dois bosser, par exemple, c'est pas terrible.
C'est
quoi.
Ça. Le droit à la liberté d'information, d'expression et de participation, et aussi le droit d'avoir une famille, d'être entouré et aimé. Voilà, après le reste, je vous laisserai fouiller. Bon, alors avec tout ça, on se dit bon.
Ça devrait aller bien dans le monde.
Mais ouais, en fait, je veux dire. Ça doit protéger les enfants d'à peu près tous, si forcément tous ces droits sont respectés. Mais bon, je pense que vous avez la réponse en fait. Hein. Je veux dire, il n'y a qu'à ouvrir les yeux quand on se promène, etc. On a bien des réponses, et quand on surfe sur le net ou à la télé, on sait bien que en fait, c'est pas aussi simple. Donc c'est clairement pas du tout le cas. On peut donner quelques exemples. Hein. On sait qu'en France, on a un enfant sur cinq qui est en situation de pauvreté. Il y a 600 000 enfants qui sont mal logés. Toujours en France. Hein. Y a des milliers qui n'ont pas accès aux soins. Toujours en France. Hein. Ce grand pays, droits de l'homme, machin, hyper riche. Dans le monde, on parle de 258 millions d'enfants privés d'éducation. 100 000 en France. 100 000. 30 millions en situation de migration. Donc, ce qui veut dire moins accès aux soins, à l'éducation, et à des conditions de vie décente, comme c'est écrit dans le texte. Et pour le travail forcé et asservi, hein, qui est aussi appelé servitude pour dette, on compte 5,7 millions d'enfants. Hein, c'est sympa, c'est le total.
La servitude pour dette, c'est le nom, l'euphémisme pour esclavage.
C'est,
en fait.
Voilà.
Non, mais pour les gens qui n'auraient pas compris, c'est ça en fait. Hein.
C'est ça, mais là c'était entre guillemets, c'était reprendre les mots, vous voyez, ouais, oui. Il faut bien parler. On cache un peu des trucs.
C'est pour que certains pays le signent. Non, mais c'est là qu'on voit qu'il y a de la diplomatie aussi, c'est-à-dire qu'on écrit certaines choses pour que. Voilà.
Ouais,
C'est horrible, hein, mais
bah, c'est le jeu des mots, quoi. C'est...
Selon l'ONU aussi, on parle de 1,2 million d'enfants victimes de la traite, donc terme appliqué au commerce et au transport de populations soumises à l'esclavage. Et la traite s'accompagne de l'exploitation commerciale des enfants, évidemment. J'ai envie de dire, c'est 1 million d'entre eux environ, majoritairement les filles, majoritairement, sont chaque année obligées de se prostituer. Et on peut rajouter à ça les victimes d'excision. Enfin, on peut continuer la liste qui serait très 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 longue. Alors évidemment, si on peut, enfin moi c'était un peu le truc, c'est ouais évidemment ce texte il est plutôt pas mal parce que ça pose au moins des bases, j'ai envie de dire, c'est juste terrible de se dire que il y a juste 30 ans, on s'est dit que en fait les petits êtres humains, oh pardon, j'ai mis un coup dans le micro, ces petits êtres humains en fait ont le droit, ont des droits et ont des oui, on se doit finalement de les protéger parce que ils ont pas les mêmes capacités etc. D'indépendance, de enfin tout ça que les adultes quoi. Et qu'en même temps enfin on le voit tous les jours quoi, c'est largement pas assez quoi. Et donc là aussi, hein, on peut penser aux traditions, aux coutumes, tout ça, hein, qu'il faudrait surtout pas changer parce qu'il faut respecter je sais pas quoi. Ben non, en fait, parce que beaucoup aussi de traditions, de coutumes se fait dans le non-respect des enfants et de leur intégrité physique et tout ça. Quoi.
Et
donc,
la répartition des richesses aussi, tout,
mais bien évidemment,
tout s'entrecroise en fait.
Mais c'est exactement ça en fait. C'est... Forcément, ils n'ont pas de pouvoir en soi, finalement. Donc,
et ils subissent ce que subissent leurs familles, souvent.
Évidemment.
Du coup, c'est là que c'est paradoxal, parce que tu parlais de tradition ou autre. Moi, je me souviens d'un discours d'une jeune indienne à l'ONU, justement, dans ce qu'on appelait le Parlement des enfants, je mets des guillemets, qui expliquait en fait qu'elle, elle était Dalit. C'est-à-dire qu'elle était intouchable et qu'elle était née comme ça parce que c'était comme ça. Et en fait, elle interrogeait l'Assemblée en disant « Mais pourquoi c'est comme ça ?» Et personne n'arrivait à lui répondre à part dire « C'est la tradition. » Voilà. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit que le droit individuel s'oppose systématiquement en fait, à la religion, à la tradition, à tout ça, parce que ça ne peut pas marcher en fait, quand vous avez quelque chose qui est prédéfini pour vous avant votre naissance. Ça ne marche pas, c'est que vous n'avez pas de liberté en fait.
Bon, voilà, il a tout dit. Non, mais oui, c'est exactement ça, en fait. Donc, j'ai envie de dire... Non, je vais être violent. Continuons la lutte. Que ça n'appartienne pas non plus qu'aux États, parce qu'on sait très bien que les États... J'ai cité quelques exemples en France. Et on peut aussi penser au collectif Jamais Sans Toi, ouais, qui se bat pour que des gamins avec leur famille dorment pas dans la rue, parce qu'en France, on peut dormir dans la rue, en fait, quand vous avez quelques mois ou quelques années.
700 enfants rien que sur Paris.
C'est ça. Et qu'en même temps, vu qu'on l'accepte pour des enfants... On l'accepte pour les adultes. Donc, c'est aussi tout ça. Donc, moi, je pense aussi, l'idée de parler de ça, moi, c'est vraiment aussi que, en fait, je pense que ça ne doit pas appartenir qu'aux États, en fait. Et surtout pas qu'aux États, finalement. Parce que, en tant qu'anarchiste, j'espère bien qu'un jour, on arrivera, comme je l'ai déjà dit, à démanteler l'État, comme on a pu le faire, comme on le fera pour le nucléaire et tout le bordel. Mais en tout cas, ça veut dire que s'il n'y a plus d'État, ça veut dire que c'est à nous, collectivement, aussi, de faire ça.
Individuellement et collectivement.
Et qu'après, je voudrais pas qu'on retombe après dans des trucs trop simplistes de dire oui mais il y a la famille, les familles c'est aussi là où se passent les viols, les incestes, les violences, donc non en fait, il faut qu'on protège absolument les enfants mais aussi dans leur possibilité individuelle et collective de s'organiser, de penser
et de se barrer s'il y a besoin
et de se barrer, et de les armer intellectuellement et tout ça et tout ça, donc voilà. C'était juste un petit coup de gueule et en même temps un petit rappel sur ces textes finalement internationaux qui n'ont que 30 ans. Voilà. si vous n'avez rien à rajouter, on peut passer à la musique.
On va mettre un peu de musique pour se remettre de tout ça.
Allez. Accused of rape and perversion, theft, narcotics and violence. And the Attorney General says they will no longer be allowed. The lives, the peace, and security of honest citizens.
nigga, been my phantom. All the things you holla, he the baddest on crack. Kiss it when it was wet. It's not from the back. This return out of Mac. Nigga, he the baddest on crack. She the baddest on crack. Nigga, been my phantom. All the things you holla, holla.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et de La Causerie plus précisément. Et nous venons de nous écouter un délicieux titre de l'album de Altarba et Senbai, qui le titre s'appelle Gangster. Et je vous conseille vivement de regarder dans vos petites salles de concert s'ils passent, allez les voir.
Parce que c'est vachement bien.
Ouais, c'est vachement bien, ça déménage. C'est du sacré grabuge, dis donc.
Oh.
Eh bien.
Corne guidouille.
Corne guidouille, dis donc. Eh bien, c'est Fab qui prend la suite. Encore une fois, on part sur des lieux de lutte
en ce moment,
dans
en
le
fait.
Monde. Et donc, c'est à toi.
Donc là, je vais vous emmener au Liban. Voilà, parce que le Liban, je vous rappelle, en ce moment, ça bouge beaucoup. Et avant ça, je vais vous parler quand même de l'Iran, mais j'ai peu d'informations. Mais avant de vous parler du Liban, je parle de l'Iran parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc en fait, en Iran, il y a aujourd'hui des manifestations qui ont lieu depuis maintenant 2 semaines. Et on estime qu'il y a eu au moins 300 morts. Il y a eu plusieurs centaines d'arrestations, voire milliers d'arrestations. Ouais. On a très peu d'informations. C'est très compliqué d'avoir des informations. Mais en tout cas, sachez qu'en Iran, ça bouge et ça bouge vraiment beaucoup. Et si j'en parle pas ce soir, c'est juste que j'ai assez peu d'informations à vous donner, si ce n'est que le régime iranien se durcit de plus en plus et tape sur son peuple, voilà, et ça part au départ d'une crise de l'essence pour un pays producteur, hein, et où les voilà, donc du coup voilà, je vous laisserai vous renseigner par ailleurs parce que je peux pas le faire.
Les infos sont très dures à avoir vu que la théocratie iranienne a complètement coupé les réseaux internet. Quelle meilleure solution pour ne surtout pas avoir d'images et de tout ça.
Et même la diaspora iranienne a du mal à avoir des informations.
Maintenant, je crois que le net est revenu, donc attendons-nous à voir ressortir les vidéos de toutes ces choses-là, et je pense qu'on y verra des choses absolument atroces, comme toute dictature religieuse, et pas que religieuse, ça faire.
Et pourquoi, en fait, je vous disais que l'Iran et le Liban avaient un lien, c'est par rapport au Hezbollah, qui est très présent au Liban, et je reviendrai. Donc le Liban, en fait, depuis son indépendance, il vit sous un système politique confessionnel, donc merci la France laïque d'avoir donné un système confessionnel à un pays qu'elle a saccagé et pillé pendant des dizaines d'années. Donc, chacune des 18 confessions présentes en Iran bénéficie d'une place à l'Assemblée nationale. Hein, au Liban, j'ai dit.
Ah, j'ai compris Iran.
Ah, pardon. Chacune des 18 confessions présentes au Liban bénéficie d'une place à l'Assemblée nationale. Et évidemment, ceci entraîne un petit peu beaucoup de corruption. hein, évidemment, parce que voilà. Et les dignitaires communautaires, c'est-à-dire les gens de la classe politique, du coup, ils ont un peu tendance, depuis un certain nombre d'années, à s'en foutre plein les poches, hein, parce que, évidemment, quand un système est réglé pour que vous ayez toujours une place au pouvoir, vous inquiétez pas, vous savez vous en servir. En gros, la classe politique, elle s'engraisse pendant que le peuple, lui, eh ben, il est de plus en plus pauvre, parce que la pauvreté au Liban, elle est juste passée, comme ça, pour information, de 12,5%. Il y a 10 ans, à 39,7% aujourd'hui, selon les chiffres de l'OCDE. On voit que c'est quand même pas rien, et que donc du coup, voilà. Donc mi-octobre, il y a des manifestations dites anti-système, parce que systématiquement qu'il y a des manifestations qui arrivent, on dit c'est anti-système, en fait, voilà, qui ont éclaté. Alors, elles se sont doublées de la volonté de voir émerger des réformes, donc en fait, elles se sont aussi doublées de blocages, parce qu'en fait, en plus de manifester, les gens ont bloqué les routes, et les dépôts pétroliers, parce que c'est un truc un peu pratique. Et qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres à tout ça? Eh ben, c'est une énième taxe qu'on voulait mettre sur le peuple libanais, c'est-à-dire qu'on voulait taxer WhatsApp. Et vous allez me dire, mais pourquoi ils voulaient taxer WhatsApp? Et bien, tout simplement parce que 90% des Libanais utilisent WhatsApp. Et pourquoi? Parce que le téléphone a déjà été taxé. Et que donc, du coup, en fait, téléphoner vous coûtait beaucoup plus cher. Sauf que WhatsApp, c'est gratuit. Hein, quoi, voilà, enfin, c'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit, mais c'est gratuit en tout cas. Et donc, du coup, les gens passaient à 90% par WhatsApp parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer le téléphone. Et là, ça a un petit peu mis le feu aux poudres, le fait de vouloir mettre cette taxe dessus. Donc depuis, il y a eu des assemblées citoyennes qui ont eu lieu spontanément. Et c'est ce qui est très très perturbant en fait pour la classe politique libanaise, c'est qu'en fait, les citoyens libanais, ils arrivent à s'organiser même quand ils ne sont pas de la même confession. Vous voyez ? Et ça les dépasse un peu. C'est-à-dire qu'en fait, dans les rues, les gens, ils sont avant tout libanais, comme ils ont dit, avant d'être autre chose. C'est-à-dire que c'est drôle parce que ça crée une émulsion là où depuis des années, on essaye en fait de les séparer. Et là, on s'en fout. Le premier problème, c'est qu'on habite au Liban. Hein. Donc ça, c'est problème 1. Problème 2, il faudrait qu'on habite autrement au Liban. Voilà. Et donc, du coup, ils ont eu des revendications. Donc la première, c'est le départ de la classe politique dans son ensemble. Voilà. Alors, étonnamment, il y a une sorte d'union sacrée qui s'est faite entre le président Aoun du Liban et le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui ont quand même dit tous les deux, en même temps, selon les mêmes termes, que quand même, c'était pas possible d'enlever toute la classe politique, parce que comment qu'on allait faire que si elle n'était plus là? Voilà, hein, évidemment.
Et puis eux, comment ils vont faire,
hein? Et donc, ils ont dit, ces revendications, c'est inadmissible, hein, quand même, faut pas déconner. Voilà. Et je vous rappelle quand même que donc Hassan Nasrallah a reçu officiellement le soutien du président iranien. Voilà, le lien est là, hein, suite à cette déclaration. Voilà, donc, et la deuxième chose, et ça a beaucoup surpris, c'est qu'en fait, la deuxième revendication qui apparaît, c'est la fin du système confessionnel, pour aller, en fait, vers un État dit neutre. C'est comme ça qu'ils l'expriment. C'est-à-dire qu'ils disent, il n'y a pas de raison, en fait, qu'il y ait des places réservées en fonction de la religion de la personne, et que, du coup, le peuple ne puisse pas choisir par qui il est dirigé. Alors, ça reste de la démocratie représentative, mais c'est intéressant de voir quand même qu'il y a une réflexion sur là-dessus. Alors, jusque-là, tout allait bien, jusqu'au 17 octobre. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé le 17 octobre? Eh bien, les femmes sont sorties dans la rue. Et c'est encore mieux. Eh oui. C'est-à-dire que non, pour une fois, c'était pas un massacre ou quoi que ce soit. Non. C'est que les femmes sont descendues massivement dans les rues. Parce qu'en fait, elles se sont dit, vous êtes bien gentils, messieurs, parce que c'était beaucoup des messieurs qui étaient dans la rue. Mais en fait, vos revendications, là, elles sont un tout petit peu en deçà de ce qu'on aurait besoin. Parce que nous, je vous rappelle, on est des femmes, et qu'au Liban, en fait, quand on est femme, eh ben, nos droits dépendent de la religion à laquelle on est rattaché. Donc elles se sont dit, attendez, nous on a des revendications vachement plus marrantes. Donc elles se sont dit, la mise en place du mariage civil et du divorce. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais en fait au Liban, il y a aujourd'hui sur les 18 confessions, 15 confessions où vous ne pouvez pas divorcer quand vous êtes marié. Wow. Vous pouvez être répudié dans la plupart, mais vous pouvez pas divorcer.
Oui, donc ça veut dire que c'est monsieur qui a le droit de de se séparer de
madame,
voilà. Non.
Alors, elles ont demandé aussi la fin des lois religieuses, surtout en fait celles concernant les affaires matrimoniales, c'est-à-dire en fait qu'il y ait des lois d'État et non plus des lois selon la religion. Et note aussi, elles disent par exemple, ce serait bien de régler les problèmes d'héritage et de divorce. Vous voyez, alors on y revient. Hein, voilà. Et elles réclament aussi des lois laïques. Ouh, le vilain mot que voilà. Les lois laïques qui en fait unifieraient le statut personnel. Parce qu'en fait, elles font remarquer qu'en fait au Liban, quand vous êtes un homme, vous avez tous le même statut. Mais quand vous êtes une femme, vous avez le statut qui dépend de votre religion. Donc c'est un petit peu compliqué. Hein, voilà. Donc faisons plus simple, on fait une loi laïque d'État et qui dit en fait que le statut est le même pour les hommes et pour les femmes, et chiche, on serait égaux. Voilà, c'est ce qu'elle revendique. Alors, jusque-là, en fait, il y avait une tradition au Liban, c'était que les femmes étaient vues comme douces et qu'elles ne faisaient jamais, non mais vraiment, qu'elles ne participaient jamais aux manifestations et qu'elles n'usaient jamais de violence physique, d'accord ? Donc, en fait, il y a un ministre qui a eu la très très bonne idée, dont je n'ai pas le nom, qui s'est approché d'un groupe de militantes pour les insulter avec ses deux gardes du corps, et les gardes du corps ont commencé à pousser les militantes. Et c'est là que Malak Alawahi Hertz, elle a eu la très très bonne idée de broyer les testicules du garde du corps d'un superbe coup de genou. Voilà. Et donc du coup, le garde du corps est tombé et il était très très surpris qu'une femme ose user de violence. Et donc depuis, elle est surnommée la Marianne libanaise. C'est-à-dire qu'elle est, voilà, c'est qu'elle est à la tête de la révolution libanaise. C'est comme ça qu'il la voit. C'est le symbole de la révolution libanaise. Et c'est très intéressant de voir ça parce qu'en fait, on part d'un pays où finalement il y avait une énorme séparation religieuse de genre et tout ça, à une révolution, parce que c'est une révolution, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire, ça prend la forme d'une révolution qui elle en fait veut réunir tout le monde. Et veulent trouver une égalité, c'est super cool. Donc là, pareil, hein, soutenez, renseignez-vous, grattez sur les infos. C'est pas terminé, hein. Ils ont un second souffle. Ils ont pris le 22 novembre, c'était le jour de l'indépendance du Liban. Et d'habitude, on fait des défilés militaires ce jour-là. Alors oui, ils ont fait des défilés civils. Et je vous invite à regarder les vidéos. C'est beau un défilé civil. Ça s'appelle en fait une énorme manifestation. Et c'est des millions de gens dans les rues. Et il y a des gens qui sont sortis qui jamais ne seraient sortis avant, quoi. Des personnes âgées et tout ça, voilà. Donc c'est très beau à soutenir. Et j'espère vraiment qu'ils arriveront au bout. Il faut quand même savoir qu'il y a déjà eu des assassinats. Donc voilà, ciblés. Notamment le Hezbollah est montré du doigt par beaucoup de gens comme ayant pratiqué des assassinats ciblés. Mais pas que. Aussi la police, hein, tout simplement. Et que, voilà. Mais malgré ça, en fait, vous savez, quand on tue un homme, et comme dirait une Libanaise, quand on tue un homme, il reste parfois sa femme. Et quand il reste sa femme, elle descend dans la rue. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Et ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent les veuves, en fait, descendent et prennent la place de celui qui n'est plus. Et voilà, et du coup, c'est pour ça qu'on parle plus d'une révolution que de simple révolte ou voilà. Voilà. Donc, c'est ça au Liban. C'est plutôt chouette, même si c'est violent. Mais c'est comme ça, les révolutions.
Bah ouais.
Et là, je voulais finir pour vous parler de Hong Kong. On va se faire un voyage un peu long, mais ça va être très rapide. C'est juste pour vous dire, en fait, qu'à Hong Kong, les manifestations continuent, contrairement à ce qu'on essaie de ne pas dire dans les médias. Elles continuent même de façon assez, régulière, parce qu'aujourd'hui, on en est à des manifestations tous les deux jours. Alors, je vous rappelle qu'ils n'ont pas le droit de manifester tous les jours, sinon c'est considéré comme une émeute et que du coup, ils peuvent se faire tirer à balles réelles dessus. Donc, du coup, ils ont pris la décision de manifester tous les deux jours. Pour contourner la loi. On sait qu'il y a au moins 40 personnes qui ont disparu aujourd'hui. On sait qu'il y a eu des morts, mais on ne sait pas combien, parce que la police a tiré à balles réelles. On sait qu'en fait, les étudiants qui s'étaient réfugiés dans l'université polytechnique, ils ont été évacués. Ils ont été évacués violemment, et qu'on suppose qu'il y a eu des morts, mais pareil, on n'arrive pas à savoir. Il y a des familles qui commencent à dire, en fait, mon fils ou ma fille n'est pas rentré. Donc voilà, là, ça commence à se voir. Il y a des gens qui disparaissent. Hein, c'est la fameuse technique chinoise, comme on dit, c'est-à-dire vous disparaissez du jour au lendemain. Voilà. Y a des appartements qui ont été totalement vidés du jour au lendemain, sans qu'on sache où sont partis les gens. Officiellement, ils ont déménagé. Hein. Voilà. Mmh. Donc voilà. Donc c'était juste pour dire que ne croyons pas trop quand on dit que tout est terminé à Hong Kong, c'est loin d'être le cas. Donc le mouvement dit pro-démocratie, en fait, il lâche pas l'affaire et il s'accroche. Et c'est quand même assez impressionnant de les voir s'accrocher malgré la répression qu'ils ont en face d'eux.
Voilà. Clairement, et puis enfin, moi, ce que je trouve assez phénoménal, c'est qu'on a pu voir de toutes les actions qui ont été menées à Hong Kong par tous ces militants et avec des techniques très différentes. Et là où en France, alors qu'on n'est pas encore dans une situation à la hongkongaise, hein, on n'a pas la dictature chinoise en face quand même, on va pas non plus la raconter. On est toujours en train de se tirer les pattes entre ceux qui veulent être Black Bloc et les autres qui veulent pas, et que donc forcément c'est jamais la bonne technique pour les uns ou pour les autres.
Là-bas, ils ont unifié la technique.
Et ben là, ils sont arrivés à se dire bon, ok, ceux qui veulent être dans l'action violente, ok, pour autant elles sont pas dénoncées par les pacifistes, ou en tout cas ceux et celles qui ne veulent pas faire ce genre d'action. Pour autant, j'ai pas l'impression que ça se dénigre les uns les autres.
Non, mais ils sont très soudés. Hein.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une... une addition en fait des différentes tactiques, et j'en parlais avec des compagnons, des compagnons anars, et que c'est hyper intéressant en fait, dans le sens pas hongkongais hein, pardon, mais d'ici mais c'est il y avait vraiment pour tout le monde en fait. Moi j'ai vu des scènes où certains mettaient du film étirable entre des feux rouges, oui. Ce qui empêche finalement, en tout cas
la vidéo reconnaissance,
ah mais même pas, c'est pas, hein, que ça, c'est aussi les bagnoles et les flics, etc.
Passer, mais...
enfin ils sont dans la merde pour passer. Il y en a d'autres qui ont collé des morceaux de pavé ou de béton sur le macadam pour emmerder les flics, pour qu'ils n'avancent pas, hein. Et là, pour l'évacuation, tu parlais de l'école polytechnique, mais c'était, enfin, il y avait des gens quand même qui étaient enfermés dedans et qui ont vu s'échapper, qui sont échappés en faisant du rappel, enfin,
avec des scooters en sous-sol.
Et en dessous, c'est ça, ouais, il y avait des gens à scout qui attendaient les gens qui fuyaient et qui partaient avec eux. Enfin, c'est génial, en fait, cette addition, en fait, des différentes approches, des différentes techniques.
Et des solidarités, finalement.
Et de la solidarité, quoi. Et c'est vraiment, enfin, je pense qu'on a énormément, à apprendre, en fait, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à Hong Kong.
Ouais.
Et pour tout ce que tu parlais aussi de la vidéosurveillance et de la reconnaissance faciale. Enfin, je veux dire, je pense qu'on a intérêt à
étudier ce qu'ils ont
à
fait.
À étudier, là aussi, hein, ouais. Partage des savoirs, parce qu'il faut quand même se rappeler que la France est certainement un des premiers pays dits, je ne sais pas quoi, démocratiques, à vouloir aller vers la reconnaissance faciale.
Oui, j'en avais parlé, d'ailleurs.
Ben, tout à fait. Donc, renseignons-nous, apprenons aussi des autres, et peut-être que, voilà... ça nous rendra un petit peu plus fort et on sera peut-être moins rapidement dépassé par l'État, quel qu'il soit d'ailleurs.
Et pour finir, et c'est pas une bonne nouvelle, ça n'a rien à voir, mais je voulais juste rendre hommage à Almaz Elman qui a été assassiné en montant dans son avion. Alors si vous la connaissez pas, Almaz Elman, elle était militante des droits de l'homme en Somalie, et c'est une des femmes justement qui a fait le plus, je pense, pour que la Somalie se pacifie et que ça aille mieux, tout simplement. Et ils l'ont assassiné, et ce qui est terrible, c'est qu'on vient d'apprendre en fait que les commanditaires estiment avoir fêté le jour des droits des femmes en faisant ça. Voilà. Donc le cynisme est assez élevé. Voilà, donc je voulais juste lui rendre hommage. Et on peut passer à la musique.
Allez.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et c'était, oui, c'était Battle Beast. Et Battle Beast avec Eden. Et franchement, moi, le power metal, je kiffe. Voilà.
Bah, vous êtes au moins deux, je crois.
Comme il balance.
Bah, écoute, à un moment donné, faut que je te dise quoi.
On va passer au bref.
Tout à fait. Eh bien, on rappelle toute la semaine, hein, c'est toujours la permanence d'aide aux travailleurs sans papier qui a lieu du lundi au vendredi, donc de 10h à midi, à l'Union départementale de la Cégette, au 215 cours Lafayette, dans le 6e arrondissement.
Et lundi 25 novembre, pardon, permanence juridique de soutien aux sans papier. Alors, proche, c'est de 18h30 à 20h. Et ça, c'est à la Lutine, 91 rue Montesquieu, dans le 7e.
Mardi, donc 26 novembre, pardon. La précarité tue. Le 8 novembre dernier, un ami, un camarade, s'est immolé par le feu devant le Crous de Lyon par désespoir vis-à-vis de sa grande précarité. Il voulait dénoncer la situation dans laquelle il vivait, dans laquelle une grande majorité d'étudiants et d'étudiantes vivent. Cette situation n'est plus tenable. Nous refusons, que cela arrive à nouveau. Rendez-vous donc 14h rue de l'Université devant Lyon 2.
Sur les quais.
Sur les quais, voilà.
Du grabuge dans ta radio, ça c'est mardi 26 novembre 2019, les TCL décousus en direct sur Radio Canu. Fiction radiophonique, musique d'enfer, entretien, création sonore, le collectif Grabuge débarque sur Canu le mardi 26 novembre pour une émission décousue dans les transports en commun lyonnais. Rendez-vous de 20h à 21h et c'est donc au 102.2 ou sur radiocanu.org.
On passe à mercredi 27 novembre. On l'avait déjà annoncé la session d'avant. C'est la formation débat sur la réforme des retraites. Le collectif Non Retraite, réformederetraites.fr, vous propose de vous présenter la réforme des retraites Macron dans le cadre d'une formation débat qui se tiendra à la Bourse du Travail. En salle C, Bourse du Travail, donc c'est 205. Voilà, là, place Guichard dans le 3e arrondissement.
Et jeudi 28 novembre, c'est la fin de l'hébergement d'urgence dans le Rhône et donc il y a un appel à la grève et à la manifestation le jeudi 28 novembre. À quelques jours de l'ouverture du plan froid, le préfet du Rhône a annoncé des mesures jamais vues en France destinées à fluidifier l'hébergement d'urgence. À Lyon, désormais, un enfant de plus d'un an, une femme enceinte de 3 mois ou une personne âgée de 75 ans se verront refuser toute mise à l'abri. Contraire à la loi, ces mesures s'accompagnent d'une réduction massive des places d'hébergement d'urgence qui passe donc de 3500 à 1500 places. Donc il y a une manifestation à 14h à la métropole. La métropole, c'est 20 rue du Lac. Puis un rassemblement à 16h devant la préfecture.
On passe à vendredi, c'est une conférence gesticulée. Transclass Express, ou comment l'école fabrique les cancres des classes sociales dans les salles de classe, ou comment... C'est... Pardon, je me répète deux fois, non ?
Oui, c'est parce que j'ai fait un mauvais copier-coller, ouais, okay. Et je suis un vilain garçon.
Ok, alors attends, comment l'école fabrique les cancres ?
Non, c'est en fait, faut enlever ça.
Ouais, c'est ça. Hein.
C'est Transclass Express, des classes sociales dans les salles de classe, ou comment l'école fabrique des cancres.
Voilà. Eh bien, c'est donc une conférence gesticulée de Maxime Mariette le vendredi 29 novembre 2019, oui, à 19h à la Bourse du Travail à Lyon. L'entrée est à prix libre.
C'est mieux que si on annonce pour 2020, les gens s'en foutent. Et samedi 30 novembre 2019, toujours, il y a l'Assemblée Générale de la Lesbienne and Gay Pride de Lyon pour organiser la 21e marche des fiertés LGBT. Tu veux t'investir dans l'organisation de la prochaine marche des fiertés LGBTI? Tu as une autre vision sur cet événement, une volonté de changer la manière de l'organiser, apporter une autre orientation politique, changer le nom de l'association? Viens alors à l'Assemblée Générale le samedi 30 novembre prochain à 14h à ALS, 16 rue Pizet, dans le premier. Et à titre personnel, je le dis, ce sera beaucoup plus efficace que de bloquer une Pride. Voilà.
Mais c'était pas nous qui l'avons fait. Dernière info, c'est toujours le samedi 30 novembre, soirée Grabuge, atelier d'écriture sur le logement et diffusion de fanzines. Le collectif d'écriture Grabuge s'invite sur les plages du Rita pour le lancement de la saison 2 sur le thème du logement. Au programme, des zines, un atelier d'écriture, des discussions. Venez embarquer pour cette nouvelle édition. Donc rendez-vous samedi 30 novembre à 18h. C'est à Villeurbanne, c'est au Rita Plage, 68, cours Tolstoï.
Et c'est les mêmes que ceux qui feront l'émission.
Oui, c'est ça.
Parce qu'en fait, ils ont fait un truc l'année dernière sur les TCL.
Et là, cette année, sur le logement.
Et je pense qu'il y aura une émission sans doute sur le logement, on va savoir.
L'année prochaine.
L'année prochaine, voilà. C'est tout un truc qui se... poursuit, c'est merveilleux. Voilà.
Eh bien, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que nous sommes très très à la bourre. L'horloge est dans mon dos, mais quand je vois la tête de Clara, je me dis qu'on est sacrément à la bourre.
Mais Clara, elle est en train de montrer sa montre qu'elle n'a pas. Tu n'as pas de montre.
Je montre l'horloge.
Oui, c'est ça. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine à venir. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, de 22h à 23h, évidemment.
Bien sûr.
Et bien, on va se quitter, pardon, avec Trent Moller et un extrait de leur nouvel album, et ce titre sera donc One Last Kiss to Remember.
Ah, c'est un appel à ce qu'on s'embrasse une dernière fois pour qu'on se souvienne.
Pour qu'on se souvienne.
C'est beau.
Je sais pas si c'est beau ou triste. Enfin bon.
triste.
C'est beau, triste. C'est tristement beau.
Oui.
Enfin voilà.
On va peut-être pas rallonger trop long. Hein. Allez. Des bisous. Ciao.
Ciao.
Salut.